la bande originale. Bienvenue dans cette bande originale avec Léla Kadombou Dadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour
Daniel Barré. Oui,
bonjour.
Et nos invités, mais on va attendre que Lynn Renaud arrive. Dominique Messner est déjà là.
Bonjour.
Lynn Renaud doit être dans les embouteillages. Merci Dominique d'être ponctuel en tout cas.
Ah bah oui, mais moi j'adore venir ici.
C'est gentil. Wow, vous êtes un peu chez vous maintenant, ça va.
Ouais, je suis venu souvent quand même.
Bah oui, oui. Et puis pour des belles productions, que ce soit 10% ou maintenant une coproduction, je crois que vous êtes deux à produire, rappelle-toi.
Maintenant, j'ai mon associé et moi et on est.
Ah, mais j'ai vu producteur de nom, c'est pour ça que je me suis permis de
dire. Associé.
Je suis désolé, j'avais pas vu les statuts de la société.
Il y a un très beau capital en tout cas.
Ça, je peux dire, ça va pas se casser.
Donc, Dominique produit ce téléfilm. J'espère que vous avez compris, Tom, pourquoi Lynn Renaud, qui ne saurait tarder, et Dominique sont nos invités. Oula.
Bah pour faire un saut en parachute. Bah non, pour leur film. Bah, qu'est-ce qui peut être désagréable, celui-là?
Ah, bah, voilà. Mais généralement, vous vous trompez.
Non. Alors, l'un est la légende des agents de cinéma, et maintenant de la production. L'autre est la légende de tout le reste. bonjour Dominique Vesnéa.
Bonjour.
On attend avec impatience Lynn Renaud. Donc, vous venez tous les deux nous parler de Rappelle-toi, qui sera diffusé demain soir sur France 3. Alors, voilà, faut pas le prendre mal, mais quand j'ai vu Lynn Renaud qui jouait dans un film qui s'appelait Rappelle-toi, je me suis dit, oh putain, encore un téléfilm sur Alzheimer.
On est content qu'elle sorte.
C'était soit ça, soit un film sur une opératrice au téléphone rose à qui il manquait des points retraite. Rappelle-moi, coquin, au 0892 69 69
c'est
69.
Rappelle-toi, pas rappelle-moi.
Oui, mais c'est, oh là là, qui est vraiment très désagréable ce matin.
Il ne comprend pas les blagues.
Non. Donc là, c'est un téléfilm c'est un téléfilm sur la résistance.
Oui.
Ce qui m'amène à cette question.
Mais comment. Là, vous dévoilez trop.
Oui, je sais, mais c'est un peu foufou.
Sur la résistance, non, ça va.
Oui, voilà. Oh, il faut garder le fait que.
Ah bah non, il faut garder le fait que, il faut pas le dire, alors s'il faut le garder.
Bah, j'ai terminé ma chronique, Nagui. Bonne journée. Allez, bonne émission.
Faut pas divulgâcher.
Mais non, mais je divulgâche rien. Non, en tout cas, j'avais une problématique qui n'est pas dans le film, rassurez-vous, Dominique. C'est comment la résistance et Alzheimer auraient pu cohabiter. A priori, très mal. On va pas se mentir, hein. Ce soir, on va faire dérailler un train. Mamie, où t'as caché la dynamite? Dans le slip de Napoléon. Voilà. Donc, a priori, très très mal. Donc, Lynn Renaud joue le rôle de Mado. C'est une ancienne résistante communiste. Qu'est-ce qu'il y a eu comme résistant dans ce pays? Je veux dire, si tu regardes tous les téléfilms et films français avec tous ces résistants planqués partout, tu finis à te dire, mais comment les Allemands ont tenu 4 ans dans ce pays? Non, mais ça, c'est un repas de famille, t'entends toujours Papy Maurice? Grand résistant, bien sûr. T'entendras jamais Papy Léon? Oui, un peu
chauve.
Parler des Allemands, ça facilite les échanges. Ouais, non, mais c'est vrai. Alors après, je critique pas. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait pendant la guerre. Évidemment que j'aurais pas collaboré, mais de là résister, faut être lucide. Déjà, faut avoir un physique et puis faut avoir des couilles pour faire derrière un train, tu vois. Un coup, moi, j'avais oublié mon sac à dos sur le quai du RER. J'avais jamais osé appuyer sur le freinage d'urgence. Alors, tu vois, donc tout de suite faire dérailler un train, c'est chaud. Non, mais c'est vrai. T'as toujours un gars dans les dîners pour faire le malin. Moi, c'est sûr. Pendant la guerre, je serais rentré en résistance. T'as envie de lui répondre, mais à quel moment? Enfin, t'aurais fait ça avant le foie gras ou après le Saint-Émilion? Parce que là, le seul truc auquel tu résistes pour le moment, c'est la corbeille de pain. Non, mais c'est vrai. Puis la campagne, les bombes, les chemins de fer. Moi, je suis une chochotte. J'aurais demandé du gel désinfectant toutes les 5 secondes. J'aurais gêné plus qu'autre chose. Voilà. Bon, bref, Nagui, je sais pas si j'ai tout compris, mais s'il y a un truc que j'ai pigé, regardant Rappelle-toi, eh ben c'est qu'on n'aurait pas été beaucoup à voir la grâce, la beauté et le courage de la très grande Lynn Renaud.
Bon, ça c'est bien. Ah voilà, c'est une bonne note. Merci Tom.
Sur France Inter.
Alors ce téléfilm Rappelle-toi, réalisé par Xavier Duringer, donc maintenant on sait qu'on va faire attention à ce qu'on va raconter sur ce téléfilm que nous avons eu la chance de voir. Il sera diffusé demain soir à 20h55 sur France 3. Je pensais pouvoir dire que c'était une ancienne résistante, Mado, communiste, dans ce téléfilm, mais je ne savais pas que c'était un secret.
Non, ça va.
Ça, on peut le dire, d'accord.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle retourne à Brest,
voilà.
Là où...
Stop. Voilà.
Non, ça, on peut continuer à le dire. Elle a quoi? Pas loin de 90 ans.
Son mari vient de décéder, dans une situation assez particulière au moment d'une charge d'émotion et d'une décoration qu'elle reçoit. Et elle a un homme auquel elle a pensé toute sa vie, qu'elle veut retrouver. Voilà, et elle part pour Brest. Et là, tout le monde hallucine en disant « Mais quoi ? Tu peux pas faire ça, tu peux pas, le lendemain de la mort de ton mari, partir, rejoindre, chercher un homme à Brest. » Et elle a un petit sourire malicieux et charmant de Lynn Renaud, qui dit « Mais mon mari était parfaitement au courant de tout, il n'y a aucun problème. »
Faut mieux faire ça le lendemain que la veille, hein, en même temps.
Non, non, mais c'est une femme qui veut régler les problèmes de son passé, voilà. Et donc, il y a un petit... Oui, en effet, pendant toute une partie, on croit que c'est pour quelque chose, et c'est pour quelque chose d'autre, donc c'est pour ça que...
Faut pas dévoiler.
Il y avait autrefois, sur les affiches de cinéma, vous êtes prié de ne pas raconter la fin. Mm-hmm. Bah là, on est obligé de dire
J'ai vu ça sur Titanic, c'est assez surprenant.
mais en tout cas, on peut dire qu'elle va à Brest, qui est cette ville qu'il a vue grandir, et que Brest, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville qui a été détruite totalement pendant la guerre.
Et pas reconstruite.
Enfin,
non, c'était une blague. Et reconstruite
à un autre niveau. Hein.
Voilà.
25 mètres au-dessus des gravats.
Oui, c'est ça.
Sur les gravats de la ville détruite.
Ouais.
Et forcément, il y a une référence dans le titre du téléfilm à Barbara, n'est-ce pas, Dominique?
Non, ce qui est bien dans ce film, et surtout. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on la voit d'une façon très différente. Parce que Lynn, elle est très douée, et elle était quelquefois, elle joue assez. C'est de temps en temps, comme les grands acteurs, comme était Gabin et tout ça, elle peut faire du Lynn Renault. Mm-hmm. Vous voyez comme c'est très facile. Et là, dans ce film, elle est complètement, il l'a complètement décapée. Elle montre quelque chose.
Sur l'expression.
Oui, il a révélé autre chose.
Il a révélé différemment.
Et voilà, il a révélé, et moi qui la connais bien, je peux vous dire que dans ce film, j'ai vu qu'elle avait des regards et des attitudes que j'avais jamais vues dans les autres films. Donc ça veut dire que Duringer a su la faire aller beaucoup plus loin que quelquefois dans des films de télévision où elle est très à l'aise.
Ouais, c'est-à-dire qu'elle, dans ce film, l'ambiguïté de savoir si c'est,
c'est difficile.
Ouais, c'est vrai. L'ambiguïté de savoir pourquoi elle veut retrouver cet homme est extrêmement bien incarné par Lynn Renault, parce que il y a un côté charmant, il y a un côté malicieux. On ne sait pas trop si c'est une gentille ou une méchante. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. C'est quelque chose de bien ou de mal. On ne sait pas ce qui la motive, et on suit son parcours en se demandant d'ailleurs si on est avec elle, avec elle ou entre guillemets contre elle. Est-ce que c'est moral ou pas?
Voilà. Mais elle est arrivée là.
C'est dangereux.
Bonjour, Lynn Renault.
Si on accueille Lynn Renault.
Lynn Renault est là. La vraie Lynn Renault.
Bonjour.
Ça va, Lynn?
Là, c'est embêtant d'habiter.
C'est loin à Paris. Hein. C'est loin à Paris.
Là où j'habite, finalement, c'est loin à Paris.
Mais quelle idée d'habiter Cergy-Pontoise aussi?
Pourquoi?
C'est ensoleillé.
Pas loin de Cergy-Pontoise. Enfin, il y a toujours quelques embouteillages inattendus.
C'est pas grave, Lynn. C'est pas grave. On est ravis parce que ce qui était bien, c'est qu'on a pu parler de vous sans que vous soyez là, et on s'est permis de dire plein de choses.
Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça m'aurait gêné.
Non, mais c'était très gênant, c'est vrai.
C'est très gênant.
Et quand Dominique dit que Xavier Duringer vous a filmé différemment, il vous a révélé une autre Lynn Renault, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez senti ça pendant le tournage?
Complètement, il est allé me chercher très loin. En tout cas, je n'étais jamais allée jusque-là d'abord. C'est probablement pour moi, depuis Suzy Berton, le meilleur téléfilm que j'ai fait. Parce que... Comment ce personnage qui a existé, cette femme que je joue.
Vous avez raison, il faut préciser que c'est une histoire vraie. Et c'est ça qui est dingue dans son final dont on ne peut pas parler. C'est qu'il y a quelques retournements de situation, mais c'est surtout une histoire vraie.
Et elle retourne au bout de 70 ans, dès que son mari est décédé, vous l'avez peut-être que, elle annonce à sa petite fille, je pars à Brest. Mais tu n'y as pas été depuis 70 ans, qu'est-ce que tu vas faire à Brest? Je vais retrouver un homme. Et chaque fois qu'elle lit une lettre jaune, elle pleure. Donc le doute s'installe, elle va rechercher un homme.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Qui est cette lettre?
À la fin du film qu'en fait elle déteste le jaune.
C'est pour ça qu'elle pleure.
Pardon d'avoir gâché la fin.
Mais c'est, historiquement, ce qui est intéressant, c'est aussi ça, c'est de faire le parallèle avec ces résistants qui étaient bretons. Et c'est aussi une façon de restaurer comme ça l'histoire française.
Ouais, et puis leur honneur, et puis vous les rencontrez, vous les retrouvez, ces résistants, en allant à Brest.
Oui, et puis aussi, ce qui est merveilleux, c'est que elle revoit comme elle retrouve Brest tout le début. C'est sur Brest, c'est sur ces gens qui ont été extraordinaires, qui ont été les premiers à entrer dans la résistance en 41. Et elle s'appelle Yvonne dans la vie. Là, dans le film, je m'appelle Mado. Avec deux copines, elles ont fait une résistance folle. Elles ont fait sauter des munitions, des trucs, des pompes, tout ça.
Alors, comment vous avez travaillé ce personnage, justement? Est-ce que vous êtes...
Elle a fait sauter des pompes.
Une espèce
Non, mais sa maman, votre maman, Aline, était...
Oui, ma mère était dans la résistance. Mais c'est-à-dire que Duranger m'avait dit un peu, c'est qu'il y a un parallèle avec ce que tu as connu dans ton enfance. Et c'est vrai, à Armentières, on a été peut-être pas à 100% détruits, comme l'a été Brest, mais bien à 50%. On était sans arrêt bombardés. Et puis, on a vu la guerre, quoi. Et donc, c'était...
Non, mais on a vu la guerre. Je cherche pas à remuer ou à ouvrir des plaies ou à remuer le couteau dans la plaie. Mais je pense que c'est important en 2017. En plus, c'est une journée interclasse et on a une classe de quatrième, si ma vue est bonne, qui est là. Je pense que ça serait bien, quand on dit on a vu la guerre, on a vu les nazis, on a vu les fachos, on a vu la Gestapo, ça... redire ce que ça veut dire, parce qu'on a un devoir de mémoire aussi.
Ah oui, mais justement, pour Brest, là, je pense qu'il y a un sérieux...
Ce que vous avez vécu.
Moi, ce que j'ai vécu, bon, j'avais...
Ça veut dire quoi, j'ai vu la guerre?
Dit, quand on a vu d'abord la mobilisation générale, donc dans les rues, les affiches partout dans les rues, donc les papas, les frères, tout le monde parti... on savait pas où.
Les hommes
jeunes. Il restait donc plus que les hommes très âgés ou les enfants. Tout s'était parti. Et puis, on a commencé à voir défiler la route nationale entre Lille et Dunkerque. On était vraiment bien placés à la frontière belge. On a commencé à voir nos troupes, mais pas seulement les nôtres, les Canadiens, les Écossais, les Anglais qui passaient, qui allaient au front, les Normands, les Bretons. Et puis, on a vu arriver les Allemands. Donc là, on a fui, on fuyait tout. C'était l'exode, on était pare-choc contre pare-choc, qu'on a mis je ne sais pas combien, peut-être 5 jours pour faire 30 kilomètres.
La peur au ventre, en plus.
Oui, et on n'a pas pu aller plus loin, on a été coincés.
Vous n'en sortez pas, Léna, des embouteillages, hein, que ce soit à l'époque ou encore ce matin.
Et là, on est rentré dans une ferme où beaucoup de personnes avaient eu la même idée d'entrer dans la ferme. On ne pouvait plus aller plus loin, on n'avait plus d'essence dans la voiture. Et donc, j'étais avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère. Et dans cette ferme. Et là, ma mère dit, je vais essayer de retrouver des jerricanes d'essence. Bon. Et elle revient peut-être une demi-heure après. J'oublierai jamais cette image. J'étais dans la cour de l'affaire et je vois ma mère, les bras en l'air et derrière elle, un tank avec les SS, tout en noir, avec la tête de mort, leur bague, sur leur képi, la tête de mort partout. Et tu vois entrer les premiers SS avec la croix gammée. C'est une image qu'on peut jamais oublier.
C'est pour ça que c'était important de rappeler ce que vous aviez vécu, petite fille. Et j'imagine que d'incarner le rôle d'une résistante, ça doit être extrêmement émouvant. Justement, le travail sur ce téléfilm était de se documenter sur l'histoire vraie, sur cette Yvonne. C'était de lire, d'interroger, d'avoir des historiens qui viennent vous raconter comment on appréhende. Oui, parce qu'on veut être au plus proche, j'imagine, de la vérité, non?
Oui. Il a fait un peu de fiction, mais il est proche. Je suis allée sur la tombe d'Yvonne là-bas et il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom, mais celui de son frère. Et quand on comprend, quand on voit le film, comprend pourquoi elle a voulu que ce soit pas le sien, mais le nom de son frère. C'est une très belle histoire qui a été aussi un passage émouvant pour moi, car on se retrouve dans la régie locale. Et il y a un monsieur qui vient me voir le deuxième jour, il me dit « Je suis ému, je m'appelle Jacques et Yvonne était ma tante.
Wow. » Oula, oui.
Et donc, je peux vous dire, elle serait très heureuse que ce soit vous, parce que elle collectionnait vos disques.
Alors, comment le projet vous est arrivé dans les mains, Dominique Besnéard? Comment cette idée, ben, vous l'avez découverte et vous êtes dit, oui, c'est le...
D'abord, Xavier Duringer, j'ai été son agent, j'ai même joué dans la conquête avec lui, et j'étais son agent très longtemps. Le temps que j'étais agent de Duringer. Et donc, il est venu me voir en me proposant ça. Et c'est vrai qu'il avait envie de Lynn, il avait envie de travailler avec Lynn. Et comme Lynn, à l'époque, ses bureaux étaient à côté des miens. Donc, tous les jours, on se voyait. Et donc, voilà, ça s'est passé. Il y a d'abord eu quelques feuilles au départ. Il n'y avait pas un scénario. Et le scénario, donc, il a fallu avoir la commande. On a eu la commande de France 3. Et puis après, bon. En fait, quand ça a été assez rapide, une fois que Lynn a dit oui, qu'il a écrit, et voilà. Ce qui a été plus long, c'est le fait
donc,
d'être...
Pardon, il a parlé du projet avant d'écrire le scénario.
Ah oui, il nous a raconté ça. Et ensuite, d'accord, avec Lynn, ça s'est fait tout de suite. Ils se sont rencontrés. Mais
Pardon pour la question, mais à ce même micro, il y a quelques semaines, Mylène de Mongeau nous expliquait la difficulté pour des dames d'un certain âge, si vous me permettez l'expression, Lynn, je regarde dans le blanc des yeux, mais
C'est plus facile chez les anglo-saxons. Vous voyez des Judi Dench, des Maggie Smith sans aucun problème.
Alors, non, mais
fois, on ne leur cherche pas des rôles d'Alzheimer ou de maison de retraite. On leur trouve des sujets.
T'as bien fait de faire ta vanne avant qu'elle arrive. Non, mais elle nous expliquait que les productions, les chaînes, les assurances.
Les assurances.
Voilà. Elle nous peut parler de ce problème. L'avez-vous rencontré, ce problème?
Bien sûr. Là, par exemple, sur la 10%, il y a un acteur. On n'a pas pu l'avoir parce qu'il n'était pas assurable d'un certain âge, alors qu'il est en pleine forme.
Moi, tout va bien, je vous préviens.
C'est quoi, c'est un âge limite? C'est
dingue.
Attendez, un état de santé. Non, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est que ça coûte très cher.
Oui,
voilà.
Pour l'assurance, oui.
Mais bien sûr, c'est que l'assurance demande des garanties. Et souvent, quand les gens n'ont rien eu, voilà. Mais par rapport, donc ça s'est fait assez vite.
D'accord.
Après, par contre, on a eu.
Je voulais absolument pas rentrer dans une indiscrétion de certificats médicaux, mais je trouvais dingue que des comédiens ou des comédiens soient ralentis dans leur possibilité de travailler avec des rôles, vous avez raison Lynn, de plus en plus rares dans une carrière pour des raisons d'assurance.
Cela dit, Lynn, elle tourne beaucoup quand même. Elle est l'exception qui confirme la règle.
Oui,
parce que par rapport à beaucoup d'actrices, elle tourne.
Je vous explique comment ça se passe. Si je fais un film maintenant... à partir d'un certain âge, je crois que c'est 70 ans, je sais plus, l'âge que j'ai dépassé, vous n'êtes plus assuré, vous, l'artiste, vous n'êtes pas assuré. Mais par contre, il faut que l'artiste, que la production, que l'artiste soit assuré pour la production.
D'accord.
Donc
pour,
à chaque
pour
fois...
Pour la bonne fin du projet.
Oui. Le producteur, l'assureur dit « Ok ». Vous pouvez la prendre, vous serez assuré.
Mais c'est non, ça. On n'a jamais eu de problème avec non, toi. Non.
Parfait. C'est une très bonne nouvelle, en tout cas. Et le résultat est là, ça se passera.
Mais aussi, demain. Ça peut être aussi pour des acteurs qui ont fait des bêtises. Hein. Si certains acteurs sont arrivés en retard, ont pris un peu trop d'alcool ou de drogue, je peux vous dire que les assureurs... Ah, mais je pense à personne. Mais je dis...
Il y a trop de noms.
J'ai connu cette époque où on me disait, ben non, c'est pas possible d'assurer, parce que... Donc, alors là, j'allais voir le médecin des assurances et je piquais des colères. Mais même pour quelqu'un...
Ducalelli.
Oui, mais lui, il était génial. Hein.
Ah bah oui, on n'avait pas besoin de les voir, on l'appelait. Non, il disait, ok, d'accord, il a envoyé le certificat.
Et puis, il y avait... Mais par exemple, une jeune fille comme Charlotte Valandré, à un moment donné, le fait qu'elle soit séropositive, quand on ne le savait pas, on ne voulait pas l'assurer. Et ça, c'était absolument dégueulasse.
Ouais, c'est violent.
C'est bien de parler de Charlotte de Valandré qui a sorti un bouquin qui raconte son itinéraire. Et c'est un beau document. Ouais. Vraiment.
Rappelle-toi, et le téléfilm, donc le film même de Xavier Duringer qui passe demain sur France 3, ça sera à 20h55 avec la formidable...
Moi, je voudrais quand même dire que...
Oui, je le dirai plus tard.
Non, mais, t'as non, coupé,
non,
il allait
non,
dire
quelque chose de formidable. Je veux dire, non, justement...
C'est vous, les
non, non, je voulais dire qu'aussi, il y a beaucoup de... C'est assez ludique aussi. Ça n'est pas que quelqu'un qui revient dans un état... Elle a une relation avec un jeune chauffeur de taxi que je veux absolument dire qui est très drôle, qui lui... Comme comme ces jeunes un peu plus vieux que les jeunes sont derrière, il apprend tout ça. Et donc, il la guide dans la ville. Et je trouve que cette relation
Frédéric,
est très belle.
Joué par Frédéric Rubio, voilà. Qui est le chauffeur de taxi Elias, si ma mémoire est bonne. Dans le,
et qui fait le passeur d'histoire aussi, quelque part. Voilà. On transmet tout cet héritage. Et c'est une belle relation.
Et donc, je voulais dire que vous étiez formidable, Lynn Renaud. Votre producteur m'empêche de vous faire des compliments. Vous êtes formidable, Lynn Renaud. Voilà. Et vos oreilles ont sifflé, Leïla, quand on vous annonçait la venue de Lynn Renaud et Dominique Besnéard.
Et oui, forcément, quand je pense à vous, Lynn Renaud, j'ai envie d'aller faire un tour au fond des bois.
Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois.
C'est pas elle qui chante ça.
Non, c'est Alain Juppé.
Si la porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler.
Ma cabane au Canada, on est en 48. C'est une chanson composée par Loulou Gasté.
Oui.
Et c'est un tel succès qu'il faut refaire plein de disques, il faut faire presser, c'est ça, je crois, de nombreux disques, tellement il y a eu de ventes.
Oui, bon, ça vend bien, oui, alors qu'il n'y avait pas autant de, disons, d'appareils pour écouter
l'électrophone.
L'électrophone. Mais c'était des grosses ventes. Deux années de suite, j'ai obtenu le prix du disque qui n'existe plus maintenant. C'est un peu l'Eurovision. Mais là, à l'époque, c'était le prix du disque. Et donc, je l'ai reçu en 49 et en 50 avec la cabane au Canada, oui.
Et c'était diffusé sur les radios.
Oui, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais.
Vous dites que c'est à longueur de journée.
Je changeais de chaîne.
Pourquoi vous entendre?
C'est ça que le contraire, quand même, Lynn. De l'entendre très, très souvent, c'est quand même bien. C'est une reconnaissance.
Oui, c'était formidable. Mais Loulou avait eu l'idée géniale de me faire faire le tour de France. Alors, parce que on n'entendait que moi à la radio, que cette cabane. Et on connaissait pas mon visage, j'avais pas de télévision. Alors Loulou a dit, bien, pour que la France connaisse son visage, tu vas faire le tour de
on
France.
On va te montrer.
Et j'ai fait le tour de France debout, dans une Simca transformée avec des rondins de bois en cabane. Debout, l'été le plus chaud, on fendait les foules. Et puis les gens venaient près de moi. Le soir, on arrivait à l'étape. Vite, je chantais sur une passerelle qui était faite là entre les deux camionnettes. Il y avait 30 000 personnes sur la place. On n'avait pas les équipements que les acteurs ou que les chanteurs ont maintenant, ni au point de vue lumière, ni au point de vue son. On chantait quand même devant 20 000, 30 000 personnes. Après, j'allais voir les disquaires. Après, j'allais porter le maillot jaune aux vainqueurs.
La grosse campagne marketing, enfin, quand même pour l'époque.
Oui, parce que justement, c'est intéressant parce que c'est le lancement à partir de cette période des produits dérivés. Ce titre a déclenché. J'ai trouvé qu'il y avait des cendriers, des porte-clés, des cartes postales, des foulards, des stylos à l'effigie de cette célèbre cabane avec des petits écureuils. Il y avait
on était totalement idiots parce que. On ne savait pas ce que c'était que le marketing. Oui. On a loupé tout ce marketing. Le marketing de la cabane. Vous imaginez si on avait fait du marketing avec le petit chien dans la vitrine, on en aurait liquidé des petits chiens.
Liquidé au sens vendu, évidemment.
En tout cas, c'est un phénomène dans l'histoire de la musique française, dans tout ce que ça a pu déclencher à partir de ce moment-là. Oui. Et quand je pense à vous, Dominique, je vous revois au cinéma. On vous parle toujours de votre côté agent d'acteur, mais là je voulais parler de l'acteur, dans un film d'Edouard Molinaro, où vous incarniez Louis XVI.
Vous aimez Beaumarchais?
Oui, c'est un homme loyal.
C'est aussi un intrigant.
Pour un auteur dramatique, c'est toute une qualité.
Cet homme est un faussaire et un imposteur dont nous devons purger la société.
Vive Beaumarchais!
Pour qu'il cesse de s'en prendre au Parlement.
D'homme bas, homme libre.
Monsieur, je vous défends.
Et moi je vous attaque. Je dépose une plainte en diffamation.
Moi je dépose votre bilan.
Il n'y a pas ma voix.
Non, il n'y a pas votre voix dans cet extrait-là. Non,
c'était inaudible, on a préféré prendre.
On
ne
comprenait rien, c'est juste pour ça.
Je voulais juste prendre une référence d'un film. Et quand je regarde votre filmographie, Dominique Besnéard, vous n'avez rien à envier aux acteurs qui ont pignon sur rue. Vous avez joué vraiment avec tout un tas de réalisateurs vraiment très talentueux. Et s'ils devaient en rester un seul, s'il fallait en retenir un dans votre carrière de comédien, votre cœur irait vers qui
quand même, hein.
Oui, mais votre cœur irait vers lequel? C'est pas forcément
Vers le dernier qu'on n'a pas vu, où j'ai tourné avec Jean-Louis Trintignant dans le film de Haneke qui s'appelle Happy End, et voilà, que personne n'a encore vu, mais où j'ai tourné une grande scène avec lui. Au début, j'ai pas voulu parce que je me suis dit, oh là là, c'est tellement... Haneke, c'est quand même, ça m'a faisait un peu peur. En me disant, est-ce que je vais être à la hauteur? Et puis ça,
c'est plus Haneke qui vous faisait peur.
Oui, non, parce que Haneke, pour moi, j'ai un tel respect. Et en plus de tourner une scène un peu dure avec Jean-Louis, qui est un ami, en plus une scène où on parle de la mort et tout ça. Donc, j'étais pas vrai. Et j'ai bien fait de le faire parce que franchement, j'ai passé une journée qui restera gravé dans ma tête et dans mon cœur, mais c'était, j'ai eu très très peur, parce que c'est vraiment, vous, quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi.
Mais comment quand, s'appelle le film, et quand est-ce qu'il sort?
J'espère que je m'occupe pas de Cannes, mais j'espère qu'il va aller à Cannes, il mérite en tout cas.
Et vous avez représenté tous les réalisateurs qui vous ont fait tourner? Ou non, des fois c'était un petit guest
Non, mais souvent ils me prenaient, parce que en allant, en me donnant un rôle, ils étaient sûrs que je vais aller sur le tournage. Comme ça, ils me coinçaient en me disant, comme ça tu vas venir. Parce qu'ils veulent toujours qu'on aille les voir sur le tournage, ce qui est normal. Donc en me donnant un rôle, ils étaient sûrs de me voir.
Et donc il y a ce rôle...
Enfin, pardon, Leïla, ne minimisons pas vos qualités de comédien, parce qu'un réalisateur qui veut voir un agent ne va pas lui donner un rôle en disant, non, même si c'est pourri, on va lui donner un rôle. Donc,
mais parce que bon, ça va.
Vous le faites avec beaucoup d'autodérision quand vous dites ça.
Voilà, voilà. Oui.
Et puis quand je pense à vous aussi, je pense forcément au festival d'Angoulême, que vous avez co-créé, voilà, absolument.
Et votre bébé.
Et c'est voilà, le bébé de Dominique. Là, vous travaillez forcément sur la programmation du mois d'août. Vous êtes en plein dedans.
Non, mais on peut même annoncer des choses. On va tourner. C'est la Côte d'Ivoire qui va être le pays invité. Mm-hmm. C'est la francophonie qui est la thématique. Et donc, on va avoir un grand hommage à la Côte d'Ivoire qui est tout à fait émergent. J'en viens du reste. Et puis, c'est la dixième programmation, ouais. Et on aura un grand hommage à Gaumont. Et là, l'exposition qui était au 104, oui, va être pendant 5 mois à Angoulême. Donc, vous voyez, on a vraiment, ça se présente plutôt bien. Le président du jury, ça risque d'être un acteur américain qui parle très bien français.
Donc voilà, on essaie. Viggo Mortensen, qui est-ce qu'on a qui parle très bien français?
Non, je ne peux pas le dire encore parce que c'est pas encore officiel, mais voilà.
Officialisé maintenant.
Donc c'est rendez-vous à Angoulême.
Un acteur américain qui parle bien français, il n'y en a pas beaucoup.
Août, non, il n'y en a pas beaucoup.
Michael Douglas.
Non.
De toute façon, il dira non quand même.
Ah, tu parles d'un acteur.
Un acteur français.
Non, je ne le dirai pas.
Jean Dujardin. Acteur américain qui parle bien
français.
Georges Clooney.
Il ne parle pas bien français.
Viggo.
Non, mais je ne vous le dirai pas. Je ne peux pas le dire.
Mais même Lynn est joueuse. Allez.
Lynn, elle est venue au début me soutenir pour Angoulême quand c'était pas encore quand on est à 11.
C'était le premier.
Ouais, le premier. Ils sont tous venus m'aider et donc j'espère qu'elle viendra pour le dixième anniversaire.
Le téléfilm, le film, ce sera demain soir, donc jeudi à 20h55 sur France 3, qui fait en plus en ce moment de véritables cartons en termes de fiction.
Énorme.
Donc le vent en poupe, ça, c'est de bon augure pour vous. Rappelle-toi avec Lynn Renaud qui est notre invitée aux côtés de Dominique Besnéard. Attention, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré.
Salut Nagui, salut tout le monde, Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chanteur de droite qui peut se laver les couilles avec sa propre langue?
Un acrobate.
Non, Michel Chardou. Bah, 1-0 pour l'humour. Miaou, 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 miaou. Chantez la bande d'islamo-gauchistes. C'est incroyable ça. Vous avez vu comment France Inter est devenue une radio bolchevique, hein? Daniel Morin, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Charline Vania Pocket, la grosse belge, hein? Les communistes ont pris d'assaut l'antenne. La semaine dernière à la cantine, c'était Philippe Poutou qui servait les endives au jambon. Vous croyez pas que les Français, ils en ont marre de voir que leurs impôts servent à payer une bande de bobos socialopes, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, après? Eh ben, ils sont énervés. Ils se vengent en votant à droite et on va se retrouver avec Macron à l'Elysée. Il va tous nous virer et avec son programme à Pôle emploi, on pourra pas refuser plus d'un boulot, même s'il est pourri. Anagui, il va faire le malin. Non, je veux pas présenter les amours. Bim! Au télé-shopping, l'Égyptien! Alors, ce qui est extraordinaire avec notre nouveau four Macron-Onde, c'est que ça peut tout réchauffer. Hein, regardez, j'enfourne le programme de Giscard, le programme de Madeleine, le programme de Hollande. J'appuie sur réchauffer, j'attends quelques secondes. Hein, on attend. C'est prêt! Vous goûtez, Marie-Ange Nardi? Ben non, j'ai pas très envie parce que ça sent pas très bon. Eh ben c'est normal, Marie-Ange. Quand on réchauffe de la merde, ça fait juste de la merde chaude. Et puisqu'on parle de merde chaude, parlons de merde froide. Vous le savez, Henri Emmanueli nous a quittés. Alors depuis hier, tout le monde chiale. Gna gna gna, quel grand homme. Gna gna gna, quel merveilleux serviteur de l'État. Alors bon, je vous l'accorde, hein, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Sauf bien sûr... si c'est Manuel Valls qui fait du parachute, et tellement il est con, il oublie son parachute, et il tombe le cul ouvert, comme ça, sur la tête d'Arnaud Klarsfeld, qui meurt étouffé dans son rectum, là, c'est rigolo. Hein, mais autant on peut avoir une pensée pour les proches d'Emmanuel et son coiffeur de sourcils qui va perdre 10 000 euros par mois, autant lui sucer la bite comme si c'était Gandhi, faut pas abuser non plus. Hein. Le mec, depuis 78, il a été député, président de conseil général, secrétaire d'État, il a cumulé 58 ans de mandat, on aurait pu trouver du travail à 6 millions de chômeurs en redistribuant ses fonctions, et les deux seules années où il a arrêté, c'était pas pour laisser la place aux jeunes, c'est parce que la justice l'a privé de ses droits civiques pour complicité de trafic d'influence. Et Hollande qui dit c'est un homme droit qui nous quitte, putain, j'aimerais pas voir leurs aimes tordues, hein. Non, les politiques qui rendent hommage à Emmanueli, on dirait Deneuve qui défend Polanski, là. Oui, c'est vrai, il a enculé les Français, mais on le sait qu'il aimait enculer les gens, hein. Déjà plus jeune, il bossait chez Rothschild. C'est pas à Cannes qu'il faut l'envoyer, Deneuve, c'est à l'hospice. Il paraît que Bruno Leroux, il a un poster dédicacé d'Emmanueli au-dessus de son lit, et il se murmure que François Fillon a préparé un petit texte pour l'oraison funèbre. Henri, avant je croyais que la fonction publique c'était servir les Français. Grâce à toi, j'ai compris que c'est aussi se servir des Français. Avant que ton corps ne rejoigne sa dernière demeure, j'aimerais prendre quelques instants pour récupérer ta Rolex et cette magnifique chevalière. Putain, t'as les doigts qui ont gonflé, mon salaud. Amen. Hein, non, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dès qu'un homme politique meurt, il devient génial. Et Michel Rocard, il a utilisé 28 fois le 49-3. Quand il disparaît, ça devient un symbole de la démocratie. Mitterrand, c'est la France-Afrique, les financements occultes, le Rainbow Warrior, la montée du FN. Hop, un cancer, ça devient une légende. Comment voulez-vous qu'on éduque les gamins après? Papa, tu dis qu'il faut respecter les gens et pas dire de gros mots. Mais moi, je préfère être un fils de pute. Comme ça, j'aurai une station de métro à mon nom. Merci de m'avoir écouté.
Merci, Gaël.
C'est un plaisir.
Nagui, la bande originale.
Bien.
Il est très original.
Il est libre de ses propos, en tout cas. Totalement libre de ses propos. C'est la force d'Inter. Rappelle-toi, sortira donc sur vos écrans de télévision.
Oui, ça diffusé
sur vos écrans de télévision. Mm-hmm. Demain,
s'attrape à branche.
Ouais, merci. Tom. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Tu cherches ta vie.
Bon, c'est demain sur France 3.
Exactement. Voilà. Exactement. À 20h55, pour être précis.
J'aimerais bien, ouais.
Rappelle-toi, c'est exactement ce que nous allons faire en prenant quelques dates comme ça de vos carrières, Dominique Besnéard et Lynn Renaud, et d'écouter la musique que vous écoutiez, la bande originale de votre vie, par exemple, en 1968.
On fire, got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there, they're all living the devil may care, and I am just a devil with love.
J'attends le refrain.
So viva Las Vegas, viva Las Vegas.
Et oui, vous êtes à Las Vegas, Lynn Renaud, et on parlera d'Elvis Presley aussi, parce que c'est une belle rencontre aussi entre Presley et vous dans la vie. Mais là, Las Vegas, vous avez donné des spectacles. C'était des spectacles de cabaret, de...
Non, c'était des revues.
Une revue?
Des grandes revues, oui.
Vous faisiez la mise en scène aussi?
Après, j'ai fait la mise en scène, pas dans celle dans laquelle je jouais.
D'accord.
Après, quand j'ai cessé, j'ai produit, et là, je produisais. Oui. à l'ACTAO à Miami.
On se rend pas compte de ce que Vegas. C'est une revue à Vegas. Déjà, moi, j'ai jamais foutu les pieds à Vegas, donc je sais même pas comment ça se passe. J'imagine jamais. T'es allé à Las Vegas?
Non, jamais.
Ben non, jamais. Mais bon, un jour peut-être, hein, quand je serai divorcé, qu'il faudra que je fasse un mariage illégal.
Tu fais quoi le week-end prochain? Mais... Tu sais faire passer un message?
Non, je sais pas. J'ai toujours l'impression quand j'ai un pote qui va à Las Vegas, généralement, il y va sans sa femme ou c'est avec une autre pour se marier vite fait. Donc ça me paraît toujours bizarre. Bref, il y a aussi des revues, il y a aussi des spectacles. Est-ce que c'est comme on le dit, comme on l'imagine, des super productions américaines avec des gros budgets, des gros moyens? On peut avoir des 50 danseurs et danseuses?
C'était, en tout cas, le spectacle. Moi, je représentais là-bas le Casino de Paris. J'étais dans le spectacle. Il y avait les Folies Bergères au Tropicana. Il y avait le Lido au Stardust. Et moi, j'étais au Dunes, qui est devenu le Bellagio maintenant. C'était de très... On avait 80 danseurs, on était des gros spectacles, ah ouais, avec une mise en scène et une technique très, 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 très forte, très lourde.
Et la France avait une image de...
C'était notre image.
De créativité, c'est ça.
Notre image, c'est que nous sommes excellents pour les revues. Les Américains sont excellents pour les comédies musicales. Mais nous, on a la spécialité de la revue à grand spectacle.
C'est encore le
c'est
cas
très français.
C'est encore le cas aujourd'hui, cette estime-là, outre-Atlantique.
Non, maintenant, tout est parti sur le Cirque du Soleil. Tous les spectacles, tous les casinos, c'est le Cirque du Soleil. Donc c'est très beau, c'est très bien fait,
mais c'est plus de la
croix. Il n'y a rien qui ressemble plus à un spectacle Cirque du Soleil qu'à un autre.
Alors... C'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est souvent, oui, sont des acrobaties.
C'est un mélange de spectacle et de cirque. C'est des acrobaties, c'est de la technologie.
Ouais. C'est très bien fait.
Ils sont impressionnants.
Oui, c'est très très bien
aussi.
Fait. Ouais. C'est impressionnant.
Mais on n'est pas dans les plumes, dans les belles gambettes.
On n'est plus dans ça, et c'est dommage.
Parlons d'Elvis, car...
Mais je l'ai connu à Paris,
Elvis. Je sais. Et vous êtes même, j'ai presque envie de dire, la seule à avoir eu droit à un concert d'Elvis Presley.
Le seul endroit où Elvis n'a jamais chanté à Paris, c'est dans ma loge, oui.
Ouais.
Dans ma loge au Casino
avec le Golden Gate.
Oui, je chantais, menais la revue du Casino de Paris. Elvis faisait son service militaire en Allemagne. Et l'ouvreuse vient nous dire, il y a 4 soldats américains dans la salle, on pense qu'Elvis Presley est parmi eux. Donc mon mari Loulou Gasté est allé voir, effectivement c'était Elvis. Et à la fin du spectacle, Elvis est venu dans ma loge avec les soldats américains. Il voit une guitare et dit « Qui joue de la guitare ?» Loulou dit « C'est moi ». Et donc Elvis prend la guitare. Et j'avais dans mon spectacle le Golden Gate Quartet. Alors il me dit « Ils sont là encore ?» Oui, on est allé les chercher. Il y avait le Golden Gate, Elvis en bras de chemise, les autres Américains en bras de chemise, et jusqu'à 6 heures du matin.
Punaise.
Avec Elvis à la guitare, on a eu le plus beau concert de Negro Spiritual. C'était extraordinaire. On est sorti.
Pourquoi vous n'avez pas filmé avec votre smartphone?
Ah ouais. Plus de batterie. Ah, seul, pour défiler sur des rondins de bois, il y a du monde. Quand vous filmez, il y a plus personne. Alors, franchement, Lynn.
On s'est retrouvé à 6 heures du matin. Dans la rue, le jour, ça y est, on était là, on n'avait pas...
Génial.
Ouais.
C'est génial.
Et là, Loulou lui explique que je vais partir je commencerai à Las Vegas dans 2 ans. Et il a dit, I will be at your opening. Un truc qu'on dit sur le trottoir, comme ça. Eh bien, il était à l'opening deux ans après, oui.
Voilà. Classe cette histoire. Très
c'est bizarre parce
merci.
Que ça, c'est le casting là qui est évoqué. On le raconterait dans un film. On dirait non, c'est pas possible. Il y a trop de trucs là. Elvis qui vient jouer dans ta loge avec le Golden Gate, c'est pas possible.
Mais surtout, ce qui est magique, comme l'a dit si bien Lynn Renaud, Elvis Presley n'a jamais donné aucun concert en Europe et encore moins à Paris. Tout ça parce que le colonel qui s'occupait de lui n'avait pas de permis de travail aux États-Unis. Donc, comme il était aux États-Unis et qu'il travaillait, travailler. S'il sortait du territoire, il avait peur de ne pas pouvoir revenir aux États-Unis. Donc, il n'a jamais signé aucun contrat, jamais voyagé, jamais fait de concert à l'extérieur. Et vous avez eu le privilège d'avoir en acoustique, en live, Golden Gate et Elvis Presley dans votre loge.
Il ne reste plus de témoins parce que ce soir-là, il y avait le concierge.
Si, c'est le Golden Gate parce que c'est.
Il en reste un. C'est Clyde.
Et c'est lui qui m'a raconté. Oui. C'est lui qui m'a raconté cette histoire.
Il reste Clyde. C'est le seul témoin car à l'époque, on n'avait pas le iPhone ni le iPad. On ne prenait pas de photos. On n'a pas un enregistrement de ça.
C'est malin.
C'était somptueux. Mais on n'avait pas tout
mais
ça.
Mais vous l'avez en mémoire, c'est ça qui est merveilleux aussi. Dans le cœur aussi. Oui. Dominique Besnéder, dans les années 60, vous écoutiez, vous aimiez. Elle ressemblait à quoi, vos années 60?
À la fois de la mélancolie et de la tristesse, parce que vivre à Ouliat l'hiver, c'est d'une tristesse terrible. Et en même temps, se réfugier devant la télévision, voir Marie-Thi Gilbert Carpentier, voir Guy Lux, voir les variétés, voir Achetant de tête de bois. Donc quand on a 8-10 ans, eh bien, c'est une, il n'y avait qu'une chaîne et c'est... Et cette culture populaire, je la revendique parce que ça m'a permis de, voilà, de d'être touché par, aussi bien par des feuilletons télé, parce que on parle de Plus belle la vie, mais il y avait un truc qui s'appelait Seul à Paris, et tous les gens à cette heure étaient devant leur chaîne pour voir Sophia Gazinski, ouais, qui était la femme de Jean-Marc, qui est la femme de Jean-Marc Thibault, qui est la belle-sœur de Jospin, qui avait le rôle principal. Donc, moi, c'est la télévision. Moi, je suis un enfant de la télé, voilà, et,
oui, mais vous êtes aussi un enfant des vedettes et des stars. Je pense à Sylvie. Je me souviens, vous êtes extrêmement proche de Sylvie Vartan aussi, intime avec Sylvie. Le fait d'être fan comme ça, puis d'approcher ses idoles et d'avoir la chance après de travailler avec elles, de les côtoyer et de créer des liens d'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement rare et particulier.
Oui, mais même j'ai assisté au tournage d'Un homme et une femme parce que la mère de Claude Lelouch était la cliente de mes parents à Ouliat. Et Madame Lelouch, je pense souvent à elle parce que c'est elle qui a toujours dit à mes parents, il faut l'aider à faire ce qu'il a envie de faire. Mmh. Donc quelque part, c'est une femme. J'aime beaucoup cette femme parce qu'elle me connaissait, elle m'aimait beaucoup, elle m'a permis d'assister à ce tournage. Et après, j'ai été l'agent de Jean-Louis Trintignant, de Anouk Aimée, alors qu'à 10 ans, j'ai vu ce tournage sur la plage avec la Ford Mustang qui faisait des arabesques. Donc ça, c'est aussi quelque chose de plus fort aussi.
En 1981, Lynn Renault, vous êtes au théâtre et vous écoutiez... Django Reinhardt, Men in Swing. En fait, vous aimez la guitare, vous adorez la musique, vous aimez les doués.
La musique Manouchi, mais on connaissait, on était très liés avec Django, Loulou était très lié avec Django. D'ailleurs, il y a des disques où Django est à la guitare, là où il fait les improvisations. Et Loulou est à la guitare sèche derrière. Il
faut rappeler que Django avait un problème à la main gauche.
Il n'avait pas de doigt.
Le brûlé, Django. Il avait trois doigts.
Voilà. Et donc, avec son handicap, il trouvait des accords et il avait un son qui est extrêmement dur aujourd'hui pour des guitaristes non handicapés, valides, de reproduire. Donc, il a fait de son handicap une qualité et une force.
Il va y avoir un film où c'est Reda Kateb qui l'incarne et qui racontait comment il peinait à avoir appris finalement à pas jouer de la guitare de façon traditionnelle, et ça a l'air très beau.
Et on revient au Casino de Paris avec Elvis Presley quand il voit la guitare et que Loulou lui dit bon, c'est moi qui joue de la guitare, et Loulou dit à Elvis, vous voyez cette guitare, sur cette guitare Django Reinhardt a joué. Et Elvis, c'est Django Reinhardt. Et il a embrassé la guitare.
Ah bien.
Pour dire le respect de tous ces gens pour Django Reinhardt.
Vous avez joué
unique au monde, Django Reinhardt.
Vous avez joué en 81, vous débutez même au théâtre dans Folle la Mandin, énorme succès de Barry et Grédy. L'exercice d'aller tous les soirs au théâtre, l'exercice physique et l'exercice aussi de se remettre, de se mettre en danger finalement, parce que là, tout peut arriver. C'est la magie et la force du théâtre. C'est un plaisir, ça, pour vous ?
Oh, bien sûr, c'est un challenge, donc c'est un plaisir. On n'avance pas sans risque et on n'avance pas sans challenge. Non.
Vous referiez ça, là, aujourd'hui, du théâtre à nouveau tous les soirs ?
Il n'y a pas longtemps.
Oui, mais là, maintenant.
Oui, là, moi, j'ai commencé. J'ai décidé d'abandonner. Personne ne le savait. Je l'ai fait sur scène. Ça m'est venu sur scène au Casino de Paris. C'était ma dernière soirée. Mais le spectacle continuait. J'étais au bout de la quatrième année et j'ai dit au propriétaire, j'arrête. Mais la revue a continué 4 mois sans moi. Et donc, sur scène, d'un seul coup, ça prenait des allures d'adieu. J'ai dit non, c'est pas un adieu. J'ai d'autres cartes à jouer.
Très bien.
Et je voudrais me laisser le temps.
En 81, vous écoutiez Dominique Besnéard.
Maladie, est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue, longue agonie.
C'est beau,
c'est Michel Delpech.
Qu'est-ce qui chante bien Delpech?
Pourquoi choisir cette chanson?
Parce que j'aimais beaucoup Michel Delpech et que cette chanson est absolument inconnue. Et je l'ai découverte peut-être avant que 79-80. Et c'est une chanson absolument magnifique qui parle de la dépression. Et c'était en pleine dépression qu'il a sa première dépression. Et donc voilà.
Vous avez été.
Il y a le docteur Lynn Renault qui est en train de dire à Pierre-Emmanuel Barré que c'est peut-être une allergie qui le fait éternuer.
Trois Zyrtec.
Moi, je lui pose des questions.
C'est trop mignon.
C'est une allergie à la connerie, vous inquiétez pas, ça finira par partir.
Dès qu'il est allergique à moi.
Dès qu'il lit un livre, ça partira.
Non. C'est que l'odeur met du temps à arriver parce qu'il est loin.
Rappelle-toi, c'est demain sur France 3 que ce film passera, 20h55, et nous avons demandé à Claire Andrieux, merci Claire de venir ce micro. Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à Sciences Po, spécialiste de l'histoire politique et sociale des années justement 40-46 et également 58-70 en France. Nous parlons de la résistance et des femmes qui restaient. Lynn Renault a évoqué ces jeunes années où elle voyait partir les hommes les plus valides à la guerre et où les femmes et les enfants et les vieux, les hommes vieux restaient en France. Quel a été le rôle des femmes dans la résistance? C'est elles qui ont été le moteur, le détonateur de la résistance, ce sont les femmes?
Dans certains cas, oui. Parce que les femmes de l'époque étaient dans une grande proportion au foyer. C'était l'idéal de l'époque. La femme devait être une mère, une épouse et rester au foyer. Et étant au foyer, elles avaient une certaine liberté de pensée qu'on n'a pas forcément quand on a une profession où on est lié par des contrats, des habitudes, etc. Et dans bien des cas, ce sont les femmes qui ont amorcé la résistance, qui ont poussé les maris et qui ont poussé leurs camarades, et pour des raisons sociologiques et des usages du temps, finalement, ce sont les hommes qui sont apparus comme les leaders des organisations.
C'est ça.
Mais par exemple, on peut prendre Lucie Aubrac, dont le cas est bien connu.
Bien sûr.
C'est elle qui a poussé son mari, qui a poussé Raymond. Et Raymond lui disait, écoute, tout ça, c'est ridicule, on n'est pas organisé, on n'a pas de moyens, etc. Elle disait, non, on n'accepte pas, on cherche quelque chose à faire. Et l'expression, en 1940, c'était « quelque chose à faire ». On ne disait pas « faire de la résistance », le mot n'existait pas, au sens où nous l'employons aujourd'hui.
Et donc, il fallait faire quelque chose. Alors ce quelque chose, c'était prendre les armes, c'était nuire à l'ennemi. Quel était le réflexe des femmes en résistance?
Alors, c'était ne pas accepter, ce qui voulait dire pas tellement prendre les armes, parce que à l'époque, il y a quelques femmes qui ont pris les armes, mais les hommes l'acceptaient très difficilement. Mm-hmm. Or, par exemple, on a une femme en Bretagne, Jeanne Boeck, qui est devenue chef du sabotage d'un maquis du Finistère, mais c'est plutôt une exception. Non, c'était les femmes, en fait, servaient d'agents de liaison, essentiellement. Elles distribuaient les journaux, elles servaient de courrier, puisque les résistants ne pouvaient pas utiliser la poste ni le téléphone. Les résistants étaient très, comment dire, démunis en termes de technologie. Et donc, ces femmes avaient aussi un rôle essentiel puisqu'elles logeaient et elles nourrissaient non seulement les résistants, mais les envoyés de Londres. Et puis, tous ces milliers de pilotes alliés qui sont tombés dans l'avion et tombés sur la France, mmh, et qu'il fallait cacher pour qu'ils puissent s'évader par l'Espagne.
Alors, justement, on ne va pas dévoiler ce qui se passe dans le film, mais est-ce qu'on n'a pas encore tout réglé de cette période-là, aujourd'hui?
Je crois que... Oui, on ne peut pas donner la fin du film.
Non.
Le temps a passé quand même, ça fait plus de 70 ans. En revanche, ce qui circule dans les mémoires familiales, justement, ce sont les histoires de famille
qui
sont très présentes. Ouais. Et il se peut qu'il y ait des secrets de famille, ça se peut qu'il y ait des choses qui n'aient pas été dites, ou il y a des choses dont on pense qu'elles ont eu lieu, mais on n'en est pas complètement sûr. Ça, c'est certain, parce qu'il s'est passé dans cette période, notamment pour ceux qui tombaient dans les griffes des nazis, il s'est passé des choses horribles, dont l'évocation est très difficile, et dont le détail n'a pas forcément été transmis.
Pourquoi les femmes n'ont pas eu tous les honneurs de cette résistance à la libération ?
La place des femmes à l'époque, elle était un peu dans l'ombre des maris. Et donc, elles-mêmes, elles n'ont pas tellement réclamé les honneurs. Ça se voit dans les dossiers. On a des milliers, mais même des centaines de milliers de dossiers de demande de reconnaissance comme anciens résistants. Et ces dossiers sont majoritairement des dossiers d'hommes. Et en plus, comme les commissions étaient très masculines, quand les femmes se présentaient, elles avaient une chance d'être retenues un peu plus limitée. Au total, quand même, on a dans la résistance reconnue, qui n'est pas la résistance réelle, on a quand même 12% de femmes. Et ces 12% de femmes, c'est considérable. Mmh. Il faut se rapporter aux chiffres de l'époque. Les femmes dans les partis politiques, à l'époque, il y en avait quelques pourcents. C'était rien du tout. Donc c'est un début de reconnaissance sociale, mais c'est certain que la reconnaissance sociale n'a pas été à la hauteur de l'engagement des femmes.
Vous avez cité Lucie Aubrac, on peut peut-être citer dans les plus connus, Germaine Tillon aussi, qui a été honorée, qui est entrée au Panthéon. Rose Vallant, il y a des grands noms comme ça que l'on pourrait citer, serait-ce que pour leur rendre encore hommage aujourd'hui.
On peut ajouter Geneviève de Gaulle, qui a été la nièce de De Gaulle, qui a été panthéonisée avec Germaine Tillon. En 2015. On pourrait ajouter aussi un cas assez original qui est celui du docteur Adélaïde Oval. On l'appelait habituellement Heidi, donc Heidi Oval. Et cette femme n'était dans aucun mouvement de résistance. Et elle est allée voir sa mère en zone libre. Elle a passé la ligne de démarcation de manière illégale. Et donc elle a été arrêtée et mise en prison par les Allemands. Et là, elle a vu qu'on maltraitait des femmes juives, elle a pris leur défense, et à ce moment-là, on lui a dit, écoutez, ou bien vous solidarisez avec les juifs, et là on vous envoie à Auschwitz, ou bien on vous libère. Et elle a continué de dire que les juifs étaient des gens comme les autres, et du coup, elle a été envoyée à Auschwitz. Et cette femme, donc, c'est une résistante, mais de l'instant, quelque sorte.
Ouais. Résistante et martyr, en l'occurrence.
Et alors, ensuite, elle est c'est sacrifiée, parce qu'elle n'acceptait pas, et elle arrive à Auschwitz, et comme elle est médecin, on essaye de lui faire participer aux expériences médicales sur les êtres humains. Elle refuse, et donc là, il y a encore toute une série d'épisodes, mais elle est quand même relativement témoin de ce qui se passe, et elle survit. Et après la guerre, elle pourra témoigner dans les procès des médecins nazis. Mais cette femme, si vous voulez, sa résistance antérieure à son arrestation, on ne peut pas dire qu'il y en a. Mmh. Et donc quand elle revient, elle n'arrive pas à se faire reconnaître comme résistante.
Et c'est pour ça que c'est bien de dire qu'à l'époque, on disait faire quelque chose. Parce qu'elle a fait quelque chose.
Et finalement, elle a fait quelque chose.
C'est un sujet de film extraordinaire.
Ah oui,
elle s'appelle Oswald.
Oval, H-A-U-T-V-A-L. Et elle a écrit d'ailleurs ses souvenirs.
Demandez le producteur. Le producteur est en route. C'est toi qui as l'idée.
L'itinéraire de Rose Vallant aussi, il est très, très intéressant.
Oui, tout à fait. Rose Vallant, c'est un itinéraire inédit qu'on a redécouvert il n'y a pas longtemps parce qu'elle était employée au musée du Louvre, je crois, si je me trompe. Et elle a vu la manière dont les nazis pillaient les œuvres d'art françaises et elle a fait des listes de tableaux volés. Et après la guerre, elle a réussi à se faire embaucher aux côtés de l'armée américaine pour récupérer les œuvres d'art. Donc ça, c'est une action de résistance également.
Merci
c'est
mille
pas
fois.
Parce qu'on vient de spoiler le prochain film de Dominique Besnard.
Merci mille fois, Claire Andrieux, pour toutes vos connaissances et votre gentillesse de nous avoir éclairé sur ce sujet. Professeur des universités en histoire contemporaine à Sciences Po. Nous restons avec Lynn Renaud et Dominique Besnard jusqu'à midi et demi pour parler de Rappelle-toi qui sera demain à 20h55 sur France 3. C'est la bande originale.
Bravo.
Merci d'être au rendez-vous.
Bonjour.
Avec Leïla Kadhoumoudadi.
Bonjour à tous.
Sam Villa.
Bonjour.
Pierre-Emmanuel Barré.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo, Daniel.
Et nos invités Lynn Renaud et Dominique Besnier. Rappelle-toi. Alors, c'est pas Rappelle-toi Barbara, mais j'imagine que le titre a été choisi volontairement.
On est ensemble, Barbara.
Rappelle-toi, il y a un devoir de mémoire évidemment dans ce film qui passera demain sur France 3. L'histoire encore une fois d'une dame qui perd son mari, le mari d'une vie, et qui pratiquement le surlendemain de son enterrement décide de partir retrouver un homme à Brest dans une ville où elle n'est jamais retournée depuis la guerre. Et là, tout le monde s'interroge, mais qu'est-ce qui lui prend ? Et c'est une espèce de road movie. Après, on vous suit en allant traîner dans un hôtel, dans un resto. On sait même pas ce qui va se passer, on sait même pas pourquoi. Il y a une complicité naissante avec un chauffeur de taxi joué par Frédéric Rubio, et on va attendre les révélations qui vont arriver au fur et à mesure et qui sont pour le final, en tout cas, totalement dingues et tout, ou presque en tout cas, est vrai. Tout part d'une histoire vraie qui a été faite en fiction, Lynn Renaud.
Tout part d'une histoire d'une dame qui s'appelait Yvonne. Elle avait 16 ans, elle était dans la résistance avec deux autres amis. Elles ont fait des actes de résistance importants, malgré leur jeune âge. Et bon, et Brest a été à 100% détruit. Et donc, elle retourne 70 ans après à Brest, retrouver son passé et retrouver cet homme.
Est-ce que...
Alors, qui est cet homme? Qui est cet homme qu'elle recherche?
Eh bien, vous le saurez demain soir en regardant France 3.
À quelle heure?
Lorsque...
Il est joué par André Oumansky, c'est toujours bien de citer les acteurs.
Absolument, vous avez raison. Il y a Anne Suarez également, Gabriel Garand et Nedra Ayadi. Est-ce que, Lynn, quand on joue le rôle de quelqu'un qui a existé, est-ce qu'on prend parti ou au contraire on se détache de son histoire? Est-ce que on se met en accord ou est-ce qu'on juge ce qui s'est passé?
J'ai été tout de suite très touchée à cause de ce régisseur qui était le neveu de cette femme. Et chaque fois, j'avais des conversations avec lui, on allait dîner ou déjeuner, il me parlait d'elle. Donc, je pensais beaucoup à cette femme.
Dominique Besnard, quand on choisit de produire un téléfilm comme ça, qui a énormément de valeurs dans tous les sens du terme, qui porte des valeurs, surtout dans la période que nous traversons, c'est des valeurs qui sont importantes, justement, nous rappeler, d'où l'intérêt de ce titre aussi. C'est votre choix, ça, de producteur, de ne pas faire simplement des films ou des téléfilms pour divertir, ce qui n'est pas un gros mot non plus, mais aussi pour faire porter des messages.
Non, mais c'est important d'essayer de... Vous voyez, quand cette dame qui est venue tout à l'heure, elle vous raconte une histoire de cette femme qui
Claire
était...
Claire Andrieux,
l'historienne. Elle nous a donné deux sujets là. Ouais. Ensuite, c'est bien d'avoir des sujets pour essayer justement de réveiller les consciences. Mais après, il faut aller les vendre dans les chaînes. C'est pas toujours en disant c'est trop triste. Oh
c'est
là
pas
là.
Facile de convaincre. Mais maintenant, quand on est producteur de 10%, on vous écoute plus facilement.
Vous
non
êtes très optimiste, Dingui.
Mais en plus, Dominique, je crois qu'il a été tourné il y a longtemps ce téléfilm.
Non, il a été tourné il y a un an et demi. Mais en même temps, là, ils ont été assez malins d'attendre la bonne période. Mmh. Et de temps en temps, moi, je m'énervais en me disant mais qu'est-ce qui se passe? D'autant plus qu'on avait montré le film parce que des fois, il y a des films qu'on laisse sur les tablettes, enfin, sur les étagères parce qu'on sait qu'ils sont pas bons. Donc là, on ne comprenait pas. C'est qu'on avait fait une grande avant-première dès que le film a été terminé à Brest. Ah ouais. Les gens étaient debout. Donc on commence à devenir un peu paranoïaque. Mais en même temps, des fois, en fin de compte, c'est une très bonne date, là.
Oui.
En ce moment, de passer ce téléfilm. Donc.
Une histoire vraie à ne pas manquer. C'est demain. Voilà. Ça s'appelle Rappelle-toi avec, Lynn Renaud, et vous avez raison, entre autres avec brillants comédiens autour. Voici l'humeur de Daniel Morin, tout aussi brillant. j'adore ce que tu fais. Je viens que pour ça.
Moi aussi, j'adore.
Ah, merci. Et pourtant, aujourd'hui, 22 mars, les amis, je ne vous cache pas que c'est une journée spéciale à France Inter. Une journée pas comme les autres.
C'est ma fête.
Pour ne pas dire une journée de merde. Oui. Ça n'a rien à voir avec votre fête, les gars. Seul petit rayon de soleil dans ma sombre journée. Vous, Lynn Renaud. Lynn, votre panache blanc comme les neiges immaculées d'une Sibérie hostile mais grandiose. Vos yeux bleu clair qui me rappellent les reflets du lac Baïkal où s'ébrouent et se noient loutres et enfants perdus. Votre sourire éclatant comme une promesse de douceur. Bref, vous m'enchantez, Lynn. Alors bien sûr, il y a Dominique Besnéard, figure légendaire du cinéma, dont le regard taquin a rendu plus d'un et plus d'une fou de désir. Regard taquin accompagné d'un chuintement quasi mergoesque qui reste une énigme pour les plus grands orthophonistes du monde. Heureusement, vous êtes là, chers artistes. Oui, ça aide à faire passer la pilule. Aujourd'hui, c'est un bordel sans nom à France Inter. Pourquoi ? Ouais. Eh bien, d'abord, vous pouvez le voir, notre public est composé de joyeux enfants. C'est le programme Interclasse. Aujourd'hui, les enfants participent au programme. Vous avez pu les entendre ce matin dans la revue de presse, mais aussi chez Augustin Trapenard. Pour le coup, ça a donné Augustin l'occasion de ranger son bureau. Ce matin à 6h, il est arrivé en catastrophe pour virer les bouteilles vides, les sous-vêtements sales et les menottes accrochées au radiateur. Alors l'ambiance, vous voyez, des gamins courent dans tous les sens depuis ce matin. Ça rigole, ça hurle dans les couloirs, ça se tire les cheveux, ça pleure, ça se fait pipi dessus. L'enfer. J'en ai croisé deux avant d'arriver qui avaient des bifetons plein les poches. Je leur ai dit, bah alors vous êtes perdus, attention, faut pas se balader avec autant de pognon hein, sur vous à votre âge. Les deux gamins m'ont répondu « De quoi tu te mêles, Ducourne et les filles à Bruno Leroux ?» Oh mon Dieu. Et s'il y avait que les enfants qui cavalaient dans France Inter, ça irait, enfin presque, bah non. Il y a aussi tous les maires de France qui ont été invités et qui sont dans la maison ronde.
Le même jour.
C'est presque pire le bordel avec les maires de France. Ils courent dans tous les sens, ça rigole, ça hurle dans les couloirs, ça se tire les cheveux, ça pleure. L'enfer, j'en ai croisé deux avant d'arriver. Un qui avait des bifetons plein les poches et l'autre qui se faisait pipi dessus. Je leur ai dit, vous êtes perdus, venez, je vais vous aider à rejoindre le groupe, messieurs Dassault et Balkany. Ils m'ont répondu, merci, et comme un réflexe, ils m'ont chacun filé 50 000 euros. Avec les élus, je peux te garantir, il y a de l'enveloppe qui circule hein, ce matin. Oh là là, ce matin, Nagui, il n'a pas assez de poche. Hein. Avec tout ce cash qui circule, hein, y en a un qui a flairé la bonne affaire, en tout cas. Dans
j'ai moins de chance que toi.
Dans le hall A de la maison de la radio, il y a François Fillon qui a ouvert une petite friperie. Ouais, il vend des costumes moitié prix, à peine portés. Nagui en a acheté 3.
À 20 000, c'est ça.
Faudra couper les manches hein, et les pattes, environ de moitié, vu la taille microscopique de l'animateur Pharaon, mais ça reste une bonne affaire. Et 3 000 euros, il s'en fout, hein, c'est ce qui touche sur France 2 pour dire bonjour. Bref, les gamins perdus, les élus corrompus, le grand foutoir aujourd'hui, et pour couronner le tout, ouais, cerise sur le gâteau, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'eau. Et ça, c'est le genre d'événement qui vous gâche toute une journée dans une entreprise à 83% du personnel qui est juridiquement considéré comme alcoolique. Petite satisfaction quand même dans l'actu avec un joueur de foot ghanéen pour qui j'ai un respect illimité. À la fin d'une rencontre, il est élu homme du match. Il est interviewé par la télé nationale qui lui remet son trophée. Réaction du joueur, je le cite, « Je suis très content, je remercie mes coéquipiers, ma femme et ma petite amie. »
Non.
Les coéquipiers ont apprécié, la femme beaucoup moins. Bonne journée quand même.
Non, c'est dingue. Merci de moi.
Nagui sur France Inter.
Vous avez, Lynn Renaud, publié le 12 janvier dernier Une drôle d'histoire. C'est aux éditions Robert Laffont. Un livre coécrit avec Bernard Stora, une sorte de polar dans lequel vous racontez comment, il y a quelques années, une jeune fan mythomane s'est introduite dans votre vie en gagnant en influence et à la faveur d'un énorme mensonge. Une drôle d'histoire qui n'a pas toujours été drôle, en tout cas, mais qui est sortie le 12 janvier, signée, co-signée Lynn Renaud, Bernard Stora. Et quant à vous, Dominique, il y a 10% qui va revenir, c'est
bientôt,
une
mais
saison
peut pas
très...
Dire, on ne peut pas dire la date, mais faites attention, c'est bientôt.
C'est très attendu.
Et même les guests, non, on peut pas ceux qui ben font qu'un seul épisode.
Il paraît que c'est...
Comment? Je ne comprends pas votre
les,
question.
Les comédiens guests, bah pardon, excusez-moi. Non mais vous savez, ceux qui ne font qu'un seul épisode, les, on va dire les...
Oui,
les,
ben,
est-ce qu'on peut citer des noms de...
Ah oui, on peut les citer, bien sûr. Non, je ne peux pas donner la date, puisqu'il y a la concurrence quand même. Et c'est vrai que le programme est attendu. Non, il y a Isabella Gianni, il y a Lucchini, il y a Julien Doré, il y a Christophe Lambert, il y a Virginie Fira, il y a Ramzy, il y a Guy Marchand.
Est-ce que cette année, tout le monde vous a dit oui quand vous posez la question, contrairement au début où
c'était délicat. Non, il y a une qui n'a pas voulu, voilà.
Voilà. Encore Sophie Marceau?
C'est pas Sophie Marceau, non, je pars avec elle alors, ce week-end, c'est pas Sophie Marceau.
D'accord, bah embrassez la
non, mais on peut la comprendre, mais bon, elle viendra troisième saison.
Très bien. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boudet.
Lynn, Renaud, Dominique Besnéard, je vous sors de la promo un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un son pour vous, Lynn Renaud.
Eh bien, ma petite Lynn Renaud, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois.
17.
17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, aimé. Il répond par oui ou par non. Hein?
C'est monsieur oui, non?
C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans.
Nous sommes le 18 avril 1960 et on a parlé tout à l'heure d'Elvis Presley, de Django. Eh bien, vous étiez la marraine d'un certain Johnny Hallyday.
Hallyday,
ouais, voilà, 17 ans, sa première télé. Ouais. Donc on a découvert en fait l'idole des jeunes grâce à vous. Comment ça s'est passé? Vous l'avez choisi, vous l'avez repéré, où vous l'avez vu?
C'est une femme qui était productrice de l'émission, qui s'appelait Aimée Mortimer, qui faisait un premier choix. Puis après, nous, on reste à peu près avec une dizaine de personnes à choisir, bon, aussi bien hommes que femmes. Et ça se passait, les candidats ne nous voyaient pas, on était dans les cabines, donc dans les cabines.
Coulisses, oui.
Et moi, quand j'ai vu Johnny pour la première fois, j'ai dit, je vais le choisir lui, voilà. Et après, il y a eu l'émission. Quand Johnny, avant qu'il chante quoi que ce soit, c'était un tel charisme qui entrait déjà.
Ah, puis, un beau gosse. Enfin, ah,
bah, ouais. Beau gosse, beau, magnifique, oui. Différent. Hein, et surtout, se dégageant ce charisme avant qu'il chante. Si bien qu'après, je disais, pourvu qu'il chante bien. Parce qu'il avait déjà le début, là. Oui. Et j'ai jamais reçu autant de lettres d'insultes, d'ailleurs.
Pourquoi?
Ah oui, oui, oui.
Pourquoi donc?
Le public a été partagé en deux. C'était extraordinaire. Les mamans qui m'écrivaient, mais parce qu'ils s'étaient traînés par terre dans le studio. En
ah non, mais tous les yéyés choqués à l'époque, comme les rappeurs choquent aujourd'hui.
Mais comment vous, une femme avec la tête sur les épaules, comment vous avez pu présenter un comme ça ce personnage? Et les jeunes qui m'écrivaient, oh, on n'a pas bien compris son nom, on veut...
Voilà, c'est bien de se souvenir que Johnny, à ses débuts, a été clivant.
Ouais.
Parce
exactement.
Que maintenant, il fait l'unanimité, exactement. Donc c'est plutôt
Loulou,
pas mal.
Mon mari a dit, bah, tu vois, il va gagner parce qu'il n'a pas créé l'indifférence.
Et pour aller plus loin, Lucien Maurice avait cassé son disque à l'antenne en disant, jamais on passera cette saloperie sur Europe 1.
Et bah, il est du nez, celui-là. Et on poursuit avec un son pour vous, Dominique Besnéard.
Bonjour, bienvenue sur Canal Plus Cinéma. Aujourd'hui, dans Un ticket pour deux, je reçois le romancier réalisateur Yann Moix, qui vient nous parler des Adieux à la Reine, le film de Benoît Jacquot, interprété magistralement par Léa Seydoux et Diane Kruger.
C'est un extrait de votre émission, Dominique, Un ticket pour deux. Feu émission, absolument. C'était tous les jeudis à 20h40 sur Canal Plus Cinéma. Vous continuez à parler de cinéma. Il y a eu Place au cinéma tous les lundis, voilà, à 20h40. C'est encore une autre façon, voilà, de promouvoir le cinéma. Que pensez-vous, Dominique, sincèrement, et je sais qu'avec vous, on a le droit à de la sincérité, au traitement du cinéma à la télé et dans les médias en général? Dans la façon dont on l'aborde?
Je trouve, de moins en moins, je trouve qu'il n'y aura plus d'émissions de cinéma. Vous souvenez, les émissions de qui se passaient, comment je me souviens plus le titre.
Mardi cinéma.
Mardi c'est des choses populaires. Mais les...
Ah bah, y avait quoi, la séquence du spectateur?
Ouais, non, j'ai
comme un cinéma. Comme cinéma.
Voilà, tout ça. Et maintenant, il n'y a plus d'émissions de cinéma, franchement.
Mais parce que, pardon, au fur et à mesure, elles ont de moins en moins marché. Donc si les gens ne regardent pas.
Non, c'est aussi que les gens regardent Internet, regardent tout de suite les bandes annonces sur Internet.
Oui,
voilà.
Donc c'est le mode de consommation.
Mais c'est vrai, mais moi, je trouve que ça serait quand même important d'avoir une émission de cinéma sur l'histoire du cinéma.
Oui,
sur les... Bon, on a commencé avec Place au cinéma, où c'est quand même un film qui est important, qui a marqué, et qu'on retrouve, par exemple, les Monty Python qu'on a passé il y a 15 jours. Moi, j'ai revu, j'ai dit, mais qui ça va intéresser? On a fait 1 million sur la 5. Donc, ça veut dire que les gens sont friands clients. Alors, c'est très modeste ce que je fais, hein, ça dure 5 minutes pour parler du contexte. Mais moi, j'aimerais bien qu'après, il y ait un petit débat, qu'on rencontre des personnes de... Mais voilà, moi, vous savez, il y a... Lynn le sait, Danielle Darrieux, elle va avoir 100 ans. Mmh. C'est la plus grande carrière de comédienne. On essaye de faire un documentaire. Personne ne veut faire un documentaire sur Danielle Darrieux. Mmh. C'est un scandale. C'est la plus grande actrice de... Elle a commencé à 13 ans, elle a tourné avec les plus grands. Ça n'intéresse pas.
Ça n'intéresse pas les décideurs, pour
l'instant. Les décideurs. Attention. Et moi, et quand il y a eu le... quand Michel Morgan est parti... Tout de suite, à la 5, on va faire quelque chose. Oui. On a passé les orgueillers, on a fait 900 000 spectateurs. C'est la seule chaîne qui a fait quelque chose pour une femme qui a été une des plus grandes actrices populaires. Bon, en plus, rappelle-toi, c'est important, mais le devoir de mémoire, moi, je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait rien pour les 100 ans de la naissance de Danielle Darrieux.
En tout cas, ce que j'aimais bien dans vos émissions, c'est que vous preniez le temps de creuser les entretiens. Et c'était pas simplement de la promo, voilà, parce que c'est souvent à cela que ça se résume. Je finis avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Lynn Renaud, je vous offre les haïkus du chat aux éditions Philippe Piquier de Minami Shinbo. Les haïkus, ce sont ces poèmes très très courts d'inspiration japonaise avec des illustrations de chats, des pensées de chats.
C'est pas pour Pierre-Emmanuel Barré, les chats?
Non,
les
haïkus de Pierre-Emmanuel. Non, mais j'y penserai pour la prochaine fois. C'est des petits poèmes très très courts avec de très belles illustrations. Ça se feuillette et on rentre comme ça dans l'intimité d'un chat qui est plutôt un animal assez heureux, à mon sens.
On rentre dans l'intimité d'un chat.
Oui, ouais. Voilà. Et pour vous, Dominique, comme je sais que vous adorez la musique et la chanson française, je vous offre les tubes. Ça s'écrivait comme ça. C'est signé Baptiste Vignol aux éditions Latengo. Dans ce bouquin, on réunit les 15 plus grands auteurs de musique, de chansons, des paroliers. Super. Qui ont été au top du hit parade pendant des semaines et des semaines, tous les grands tubes, et ils expliquent comment ils ont créé la chanson, quelles sont leurs recettes, pourquoi un titre a marché selon eux, et comment ils ont procédé pour trouver le bon interprète, parce que une bonne chanson, elle peut marcher moyennement, mais si on trouve le bon chanteur, ça peut être un carton.
Voilà. C'est chez qui ?
Latengo édition.
Les tubes, voilà, merci Léla Kadobo-Dédi. Rappelle-toi, c'est demain soir sur France 3 à 20h55. Ah. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très important de souligner le rôle capital des femmes dans la résistance. Daniel Morin, ces femmes, il faut non seulement le rappeler encore aujourd'hui, mais il faut leur rendre hommage parce qu'elles étaient là alors que les hommes étaient au combat et qu'il fallait se battre.
Oh, nom de Dieu, qu'il est beau! Oui, il est beau, il est magnifique même. Il est sympa, il est joli, c'est l'incroyable Monsieur Guy. Vous êtes beau, Monsieur Guy, vous êtes idiot. Mais vous êtes beau! Alors oui, je le sais que les femmes qui résistent, vous en connaissez un rayon, Monsieur Guy. Et je ne parle pas de France Gall qui sera la star du prochain Taratata. Mais je pense à celles qui sont obligées de résister à vos avances douteuses et surtout très peu hygiéniques. Et pas que. Avant l'émission, j'en parlais à Pierre-Emmanuel Barré, que vous avez harcelé malgré sa forte pilosité et son haleine de nazi. Pierre-Emmanuel qui m'a dit « Résister, pourquoi faire ?» J'ai besoin de travailler, moi. Il ne croyait pas si bien dire. Vous le savez bien, Monsieur Guy, pour qu'un système fonctionne, on a besoin de tout et de son contraire, de l'alternance. Il faut autant de collabos que de résistants. Nous avons l'illustration dans cette équipe, côté collabos. Ceux qui assument et portent fièrement la coupe de cheveux grand-maman post-libération. On est chez nous. Alors résister, c'est bien, mais il faut que pour cela, il ne faut pas que ce soit stérile. Il faut résister contre quelque chose, d'où l'importance d'une frange collaboratrice et collaborative équivalente. Pour revenir à la femme dans la résistance, eh bien, je suis bien d'accord avec vous, Monsieur Guy. Quand en privé, vous me dites, si les femmes résistaient moins aux hommes, il y aurait moins de guerre. C'est vrai, vous avez dit raison.
C'est honteux.
Quant au reste, désolé, mais ce matin, vous avez encore dit...
N'importe quoi.
Je ne cautionne pas du tout ces horreurs.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Rappelle-toi, c'est demain soir, donc avec Lynn Renaud, Anne Suarez, André Ourmanski, Frédéric Rubiot, Gabriel Garand, Naïdra Ayadi, produit par Dominique Besnera, incarné, porté par Lynn Renaud, magistrale. Je vous trouve absolument formidable, Lynn, dans ce film. Et est-ce qu'il y a d'ailleurs un projet cinéma qui va arriver bientôt ?
Oui, je vais tourner avec... Danny Boone, son prochain film.
Ah, la ch'ti de famille ?
Oui, la ch'ti.
La jolie ch'ti de famille,
non, c'est pas ça ? Une ch'ti famille, oui. D'accord. On va tourner ça cet été.
Formidable. Formidable.
On a un projet ensemble de faire un meurtre à Bride-les-Bains.
Avec Lynn et vous.
Non,
à cause d'une tongue. Ouais. À cause d'une claquette. Non,
meurtre à Bride-les-Bains.
C'est pas grave, c'est pas grave. C'est
je vous confonds. Bride-les-Bains.
C'est bizarre.
Bride-les-Bains. C'est une production de Dominique. Dominique dit, Je suis dans la troisième série de 10%. Et cet été, je tourne avec Danny Boone, la ch'ti famille. Une ch'ti
très
famille.
Très bien. Bah, vous n'arrêtez
qui
pas.
Qui n'est
et
pas
on
du
ravis.
Tout la suite de
Bienvenue chez les ch'tis.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Alors, désolé déjà pour Michel Drucker qui a appris ce matin qu'il n'était plus assuré et ce depuis plus de 10 ans. Pas grave, Michou. Vos téléspectateurs non plus. Désolé pour Pete Doherty, les Sex Pistols et autres qui ont découvert ce matin que leur tournée de à côté de Lynn Renault était nettement moins punk que celle de cette belle Lynn qui n'hésitait pas à traverser la France sur une voiture en bois. Et oui, les gars, ça vous calme.
Merci Daniel, passez une bonne journée. Demain, on se retrouve avec Jane Birkin qui sera notre invitée pour parler de l'hommage symphonique qu'elle rend à Serge Gainsbourg. Et dans quelques instants, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci Lynn, portez-vous bien.
Merci Dominique.